Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 5. Actes 9, versets 3 à 5. Nous sommes donc sur le chemin de Damas, en route avec Saul de Tarse. Et nous lisons que comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. » Sur le chemin de Damas, devant l'éclatante manifestation qui s'imposait à lui, Saul adressa cette question à Jésus « Qui es-tu, Seigneur ?» Et sans aucun doute, la question ainsi posée signifiait que la personne à qui il s'adressait faisait partie pour lui de la divinité. Et dès lors, par la réponse expresse du Seigneur « Je suis Jésus que tu persécutes », Saul de Tarse ne pouvait que conclure que celui qui se révélait dans sa gloire, Jésus, dont il combattait les enseignements, dont il combattait les disciples, était de nature divine. Les versets qui énoncent clairement la divinité de Jésus-Christ sont peu nombreux et ils sont souvent d'une construction compliquée. Un exemple, dans Jean chapitre 1er, verset 18, nous avons ce verset, je vais vous le lire dans ma version second révisée, qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique du Père, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et nous avons là une version qui ne fait pas forcément l'unanimité. Peut-être que vous-même, vous lirez autre chose. Je vous le rappelle, j'ai lu « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. » Il y a là un parti pris très fort dans cette version. Dans d'autres versions plus simples, plus anciennes, notamment de la seconde, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. » Et nous avons là donc une sensibilité, une approche différente. Et tous les versets qui concernent la divinité de Christ sont des versets qui sont assez compliqués à traduire, il faut bien le reconnaître. Alors, nous allons nous tourner vers deux confessions de foi, deux confessions d'apôtres, ces hommes qui ont été les plus proches de Jésus. Nous nous rappelons celle de Pierre que nous avons longuement médité, lorsqu'il lui disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et puis, il y a celle de Thomas, lorsque Thomas, devant la résurrection du Seigneur, va lui dire « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Ces paroles ne sont pas simplement adressées à un homme, même à un homme extraordinaire qui a accompli des miracles merveilleux, mais ces paroles, qui sont des confessions de foi, sont adressées pour Pierre au Fils de Dieu, d'après la révélation qu'il a eue du Père, et pour Thomas, beaucoup plus loin. Il adresse cette confession à quelqu'un qui est devant lui, qui a une forme humaine, et pourtant qu'il appelle Dieu. La notion de divinité est évidente pour celui que nous appelons le Père. Mais qu'en est-il pour celui que nous appelons le Fils ? Au-delà d'une confession de foi incontournable, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Comment la Bible nous permet-elle de dire et d'établir sa divinité? Et c'est là un enjeu important par rapport à des religions qui veulent renverser la dimension divine de Jésus pour le réduire au mieux à un leader religieux parmi tant d'autres dans ce monde. Alors nous répondrons à cette question en deux temps. Tout d'abord, nous allons considérer cette semaine ce que la Bible enseigne concernant la divinité du Fils avant son incarnation. Et la semaine prochaine, nous tournerons vers la personne et la nature du Fils incarné, c'est-à-dire de Jésus. Une question fondamentale pour établir la divinité de Jésus-Christ, de Christ, du Fils de Dieu, est celle de son existence dans les temps passés, en tant que seconde personne de la divinité. Et la question est celle-ci. Christ a-t-il commencé d'exister au moment de son incarnation ? Où devons-nous croire à une existence préalable de Christ avant sa naissance sur terre. Évidemment, il y a là une question de foi. Mais pour nous aussi, il y a là un appui biblique très fort. L'évangile de Jean commence par cette parole « Au commencement était la parole ». Cette parole qui va devenir chair et se manifester en Jésus-Christ. Jean 8, 58, c'est une parole de Jésus qui nous dit « Avant qu'Abraham soit, je suis ». Abraham qui vivait plus de 1800 ans avant Jésus. Jésus lui-même a pu dire dans Apocalypse 1, 18 « Je suis l'alpha et l'oméga », signifiant par là qu'il était au début et qu'il sera encore présent à la fin. Nous croyons donc dans la préexistence de Christ. Nous la croyons et nous l'affirmons par rapport à tous ceux qui, religieux ou athées, ne verraient en lui qu'un homme. L'islam voit en Jésus un prophète, mais refuse l'idée qu'il ait pu exister avant son incarnation ou avant sa naissance. Il y a d'autres doctrines chrétiennes que nous appelons l'adoptionnisme qui prétendent que Jésus est devenu fils de Dieu dans le sens où, ayant accompli toute la volonté du Père, Dieu l'aurait adopté, alors l'aurait élevé à la dignité de fils sans qu'il existait auparavant. Nous refusons ces positions. Nous croyons que le Christ a préexisté. Affirmer toutefois notre foi dans la préexistence de Christ, mes frères et sœurs, n'est pas encore suffisant. Car d'autres dans l'histoire chrétienne, tout en croyant que le Christ est préexistant à son incarnation, ont affirmé qu'il n'est qu'une créature. Certes, la première des créatures, mais malgré tout qu'une créature. C'est ainsi qu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, un moine appelé Arius affirma que Christ n'était pas éternel et qu'il fut la première des créatures divines. Et cette position fut combattue et déclarée hérétique au concile de Nicée en 325. De nos jours, les témoins de Jéhovah et d'autres sectes de type chrétien ont adopté des positions similaires. Tout en retenant le titre de fils de Dieu pour Jésus, ils l'ont vidé de sa substance éternelle. Pour eux, Jésus n'est qu'une créature angélique. Ils y associent même la personne de Michaël. Il nous faut donc aller plus loin que la simple idée de préexistence de Christ et affirmer deux choses incontournables, son éternité et aussi son auto-existence. Qu'est-ce que cela veut dire, auto-existence ? C'est que Jésus n'a jamais, le Fils, pardon, n'a jamais été créé et qu'il existe de par lui-même sans l'intervention d'un autre. Et l'éternité et l'auto-existence sont nécessaires pour établir la divinité d'une personne. Et en proclamant ces choses, nous disons que le Fils est Dieu. C'est ce que Jésus a attesté aussi, comme je le disais, mais nous pouvons aller un peu plus loin dans cette déclaration de Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham soit, je suis !» Et quand il dit « je suis », bien sûr, nous savons qu'il fait référence au nom du Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour cela que ses interlocuteurs ont tout de suite voulu saisir des pierres prêtes à le condamner pour blasphème. Ainsi, dire que Christ est éternel est une déclaration beaucoup plus puissante que simplement dire qu'il préexista. Les témoins de Jéhovah, comme Arius dans l'histoire, croient dans la préexistence de Christ, mais pas dans son éternité. Mais nous croyons qu'il est éternel. Alléluia. Des textes de l'Ancien Testament soutiennent cette éternité du Fils de Dieu. Par exemple, Michée, chapitre 5, verset 1er, verset 2e, où les termes utilisés en hébreu sont les plus forts pour décrire une durée infinie. Le prophète a dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Et ces mots en hébreu nous parlent d'une éternité sans début, sans commencement. Il était déjà présent. Dans le Nouveau Testament, encore une fois, le prologue de Jean est considéré comme une affirmation de l'éternité de Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et l'expression « au commencement » en grec fait référence encore une fois à un temps dans l'éternité passée, situé au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, quel que soit ce temps. La parole était déjà là. On pourrait aussi citer Colossiens chapitre 1er versets 16 et 17 où son éternité et son œuvre créatrice sont mentionnées par l'apôtre Paul qui écrit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Alléluia. La préexistence et l'éternité de Christ sont donc des doctrines fondamentales pour établir la divinité de notre Seigneur. Il nous faut aussi parler de la relation de Christ avec Dieu, son Père. Confesser la divinité d'un autre que Dieu, le Père, est un terrain qui pourrait nous conduire vers une forme de duothéisme, c'est-à-dire deux dieux. Or, nous sommes monothéistes. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de questions ont surgi de cette notion de la divinité du Fils, de la divinité de Christ, et notamment des questions très simples. Quel type de Dieu est Christ? Encore, est-il une manifestation particulière de la divinité? Est-il un autre Dieu à côté du Père? Ou ne serait-il qu'un Dieu de deuxième ordre à côté ou par rapport au Père? Il nous faut d'abord nous arrêter sur les conséquences de la filiation divine du Christ par rapport au Père. Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons dit, non pas simplement dans la conception de l'Ancien Testament qui voyait dans le Fils de Dieu quelqu'un qui était élu par Dieu pour remplir une mission particulière. Certes, Christ a été élu, mais sa filiation avec Dieu va beaucoup plus loin parce que sa filiation est une filiation par unité. Avant son incarnation, il était déjà uni au Père. La parole est Dieu. Et après son incarnation, Jésus dira « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean chapitre 10, verset 30, une filiation par unité. Et cette unité entre le Père et le Fils nous permet d'avancer deux notions très importantes. Je vais vous donner deux mots. Vous les retiendrez si vous voulez, mais en tout cas, ils sont importants dans le langage théologique. Le premier, c'est celui de transférabilité. En parlant d'union, d'unité entre le Père et le Fils, nous pouvons transférer tout ce qui est dit concernant le Père, tout ce que le Père possède au Fils. Et c'est très important, car nous pouvons transférer tous les attributs de Dieu. Tout ce qui qualifie Dieu, nous pouvons l'appliquer à son Fils. Ça, c'est le premier mot, transférabilité. Deuxième mot très important, consubstantialité. Consubstantialité veut dire de la même substance, de la même nature. Et si on doit résumer avec des mots simples ces deux termes de transférabilité, de consubstantialité entre le Père et le Fils, nous dirons tout simplement que ce que le Père est, et ce que le Père a, le Fils l'est aussi, et le Fils l'a aussi. Notamment, l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu. L'omniscience, la toute-connaissance. L'omniprésence. Bien sûr, là, il faudrait nous arrêter, et nous le verrons peut-être la semaine prochaine, sur la question de l'omniprésence du Fils incarné. Il y a là notamment une grande différence entre la doctrine des luthériens de Martin Luther et la doctrine réformée, la doctrine calviniste et évangélique. Chez les luthériens, le Christ incarné reste omniprésent. Ce qui n'est pas forcément notre doctrine. Nous croyons que par son esprit, le Christ incarné est omniprésent, mais dans son corps, il est situé à un endroit particulier. Et ça, ce sont des détails. Mais ce que nous devons aussi rajouter, c'est que la parfaite sainteté de Dieu appartient aussi à Jésus-Christ, au Fils. Dieu est saint, le Fils est saint. Alors, Maintenant, certains groupes attachés à une certaine idée de la divinité et du monothéisme ne peuvent imaginer que le Christ soit une personne à part entière, une personne divine à part entière. Dans l'histoire de l'Église, ce courant s'est notamment appelé le modalisme, le mode. Il affirmait, ce courant, que Dieu est un, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui s'est manifesté sous trois formes, en trois époques différentes. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté sous la forme du Père, notamment dans ses relations avec Israël, Dieu. Dans les Évangiles, il se manifeste sous la forme du Fils, Jésus. Et dans l'Église, depuis la Pentecôte, il se manifeste sous la forme du Saint-Esprit. Et donc, il ne verrait qu'un Dieu qui se manifeste sous trois formes différentes. D'une certaine manière, cette doctrine se retrouve dans des mouvements que nous appelons mouvements unitariens. Les Jésus seuls, par exemple. Nous croyons que cette position est incorrecte. Il y a plusieurs arguments et plusieurs passages qui nous permettent de contrer cette fausse doctrine. Ce matin, nous nous contenterons simplement de citer cette parole du Seigneur au sujet du baptême, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui fait bien la différence entre ces trois personnes et qui est une affirmation de la Trinité et de la Triunité, si vous voulez, mais nous ne pouvons pas développer davantage ces choses ce matin. Ce que nous croyons, ce que nous disons, c'est que le Fils possède une existence propre. Il est une personne à part entière, différenciée de Dieu le Père. Et nous disons qu'il y a non-confusion entre le Père et le Fils. Nous avons bien donc deux personnes qui ne sont pas confondues en une seule, deux personnes distinctes. Mais si nous affirmons cela, certains groupes pourraient nous accuser alors d'être des polythéistes. C'est notamment là les accusations, encore une fois, de l'islam et du judaïsme aussi, qui nous disent « vous croyez en deux dieux, oui, en trois dieux, vous êtes donc polythéistes », ce que nous refusons. La Bible nous donne la véritable compréhension, et là vous pouvez encore reprendre Jean chapitre 1er, verset 1er, ce merveilleux passage de théologie, d'équilibre et de révélation sur la personne de Dieu. Jean écrit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu, ce qui peut être traduit aussi par la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, elle était auprès de Dieu, il y a donc deux personnes distinctes. Deux personnes sont identifiées, elles ont une personnalité propre. Il y a Dieu et il y a la parole qui sera faite chair, verset 14, et qui au verset 18 est appelée le Fils. Mais ces deux personnes propres, distinctes, ne sont pas pour autant dissociées ou juxtaposées. Si ces personnes étaient dissociées ou juxtaposées, comme pourrait le laisser entendre cette parole qui dit que la parole était avec Dieu, nous serions deux dieux. Si la parole est avec Dieu, ça identifierait deux personnes complètement distinctes, l'une à côté de l'autre. Mais Jean rajoute ensuite, la parole était Dieu. La parole était Dieu, ça nous parle donc d'unité. Dans ce verset, il y a donc d'abord une question de distinction. La parole est auprès de Dieu. Deux personnes sont identifiées. Et ensuite, il est question d'unité. La parole est Dieu. Et ainsi, ces deux personnes se retrouvent en une. C'est bien là, au bout du compte, un mystère qui ne peut être pleinement appréhendé que par la foi. Deux personnes avec une personnalité propre, une existence propre, distinctes l'une de l'autre, sans pour autant être dissociées complètement l'une de l'autre, ne faisant qu'une au bout du compte. C'est un mystère, mais c'est le mystère de notre Dieu. Le Fils est donc une personne divine propre. Il n'y a pas de confusion entre lui et le Père. Il y a le Père, il y a le Fils, mais il est aussi une personne pleinement unie à Dieu. Et nous refusons toute idée de dissociation entre le Père et le Fils. Je voudrais aussi aborder un dernier point qui, sans être véritablement une doctrine, est quelque chose qui passe dans beaucoup d'églises, même dans nos assemblées. Ce n'est pas vraiment une hérésie, mais à mon sens, c'est un point qui mérite malgré tout d'être abordé. C'est ce qu'on appelle l'idée du subordinationnisme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que pour certains, oui, le Fils est pleinement Dieu, il est ce que le Père est, mais en même temps, il n'est pas tout à fait au même niveau que le Père. Il lui est subordonné. Il lui est subordonné. Et le risque avec cette pensée, c'est celui d'affaiblir la divinité du Fils. Certes, le Fils, c'est Dieu, mais il est quand même en dessous du Père. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous croyons au contraire que le Fils est au même niveau que Dieu. Il est au même rang que Dieu. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 8, rappelle ce verset des Psaumes, lorsqu'il est écrit « Mais il a dit au Fils, et là, c'est Dieu qui parle, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Et ça, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Et qui lui dit « Tu es assis sur le trône. » Quel trône ? Le trône de Dieu. Et si Christ est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est assis en dessous de Dieu. Comme si à la droite de Dieu était quelque chose d'en dessous de Dieu. Il est au même rang que Dieu. Nous refusons donc toute idée de subordination du Fils au Père. Toutefois, nous accepterons quelque chose. L'idée d'une soumission, d'une subordination du Fils incarné en vue d'accomplir le salut. Rappelez-vous ce que Jésus dans le jardin du Gethsémané va dire au Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, en vue de notre salut, le Fils, comme nous le verrons la semaine prochaine, qui a déjà accepté de quitter cette gloire qu'il partage de toute éternité avec son Père, a donc aussi accepté de se soumettre à Dieu, de se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour nous sauver, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Mais nous savons aussi que par la suite, Dieu l'a relevé d'entre les morts et l'a élevé. Et il a fait de lui Christ et Seigneur. Et Seigneur, si nous renvoyons la tradition de l'Ancien Testament, Adonai, c'est le titre qui était réservé à Dieu. Le Fils est au même niveau que le Père. Alléluia. Ainsi, nous affirmons que le Christ est éternel, qu'il est incréé, qu'il est de la même substance que le Père, qu'il partage les mêmes attributs que le Père et qu'il est au même rang que le Père. En lui, il y a toute la plénitude de la divinité. Nous affirmons que le Fils est Dieu. Et bien sûr, ce que nous devrons poursuivre la semaine prochaine, c'est notre réflexion quant à la divinité du Christ incarné. Qu'en est-il de cette personne unique dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus, dont nous disons par avance qu'il est à la fois pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. C'est ici notre foi, c'est ici un mystère extraordinaire. En conclusion, j'aimerais avec vous aller dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Au verset 8, un des disciples du Seigneur, Philippe, va adresser à Christ, à Jésus, une requête particulière. Et nous lisons que Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Qu'est-ce que lui disait Philippe ? En quelque sorte, montre-nous Dieu. Montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Et nous te croirons, il n'y aura pas de problème. Et la réponse du Seigneur est saisissante. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Et alors que je m'arrêtais sur cette parole, je me disais, si le Seigneur nous adressait la même parole, depuis combien de temps Jésus est-il avec nous? Depuis combien de temps Jésus est-il avec toi? Alors je ne sais pas, mon frère, ma sœur, si tu lui as adressé la même requête que celle de Philippe, montre-nous le Père, cela me suffira, mais tu as peut-être demandé au Seigneur des preuves, comme pour dire, donne-moi d'être convaincu, donne-moi de voir ceci, donne-moi, fais ceci, et alors je serai convaincu que tu es vraiment le Christ, que tu es vraiment le Seigneur. Et Jésus pourrait nous dire, mais il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout simplement, tu n'as pas encore réalisé que je suis Dieu. Tu n'as pas réalisé la plénitude de la dimension de Jésus-Christ. Toujours à lui demander une preuve, une action particulière. Il est Seigneur, il est Dieu. Et Jésus continue, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, une union parfaite entre les deux. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est l'empreinte de la personne du Père. Il est le reflet de sa gloire. Nous pourrions reprendre encore quelques versets de l'Évangile de Jean au chapitre 1er, qui sont autant de versets qui rendent gloire à notre Seigneur. Lorsque Jean écrit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Chapitre 1er, verset 15. La gloire de Dieu, nous l'avons contemplée en Jésus. Et de rajouter au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Mes frères et sœurs, jamais nous ne pourrons accepter de prendre un chemin qui affaiblirait la divinité du Fils de Dieu. À aucun moment, la Bible ne met en doute la plénitude de la divinité du Fils. Avant toute chose, il était déjà présent. Éternel, incréé. Tout a été accompli par lui, pour lui, avec lui. Il est de la même substance, de la même nature que le Père. Et si le Père est invisible et personne ne peut voir le Père, je rajouterai, personne ne verra le Père. Même dans le ciel, Dieu est esprit. Personne ne peut le voir et ne le verra, mais nous verrons Jésus. Il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Et je bénis le Seigneur parce que réfléchissant à cela, je me dis, celui qui est Dieu vit en moi. Celui qui est Dieu vit en moi. Amen.